100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, à Accent d'Europe, on s'est mis au télétravail depuis quelques semaines, épidémie de Covid-19 oblige. Comme partout en Europe, les bureaux et les transports en commun se sont vidés. On a appris à jongler entre vie familiale et vie professionnelle, une révolution qui pourrait bien durer. Au point qu'en Allemagne, le ministre du Travail souhaite désormais lui donner un cadre légal. Depuis Berlin, le reportage de Julien Méchaussy.
Malgré l'annonce de la réouverture des jardins d'enfants en Allemagne, la plupart des lieux d'accueil ne sont pas encore en mesure de garder les enfants. Alors pour les familles, on continue à faire confiance au système D, comme ici à Lichtenberg, quartier de l'Est de Berlin. Deux familles qui vivent dans le même immeuble, avec en tout 4 enfants, âgés entre 2 et 5 ans. Le matin, ils sont tous gardés par une famille, les autres parents peuvent alors travailler, et l'après-midi, on intervertit.
Bonjour Zara, waouh, c'est calme.
C'est très calme.
Deux étages plus haut, Zara, juriste au sein d'une administration publique, profite du silence pour se concentrer et être la plus efficace possible.
C'est très compliqué, nous ne pourrions pas travailler avec les enfants à la maison. Ils sauteraient partout, n'arrêteraient pas de nous poser des questions, voudraient qu'on leur lise des histoires. La seule solution serait de travailler tard le soir, quand les enfants dorment. C'est difficile pour tout le monde.
À l'image de nombreux pays européens, l'Allemagne avait jusqu'ici du mal à accepter le télétravail. Mais la crise sanitaire pourrait bien avoir entraîné une petite révolution. Si à peine plus de 10% des travailleurs pouvaient profiter du télétravail avant le coronavirus, ils sont désormais près de 25%. Une tendance irréversible selon Werner Eichhorst, sociologue et expert du marché du travail.
Nous observons qu'une grande partie des employeurs et des employés allemands ont à présent compris qu'il est possible de travailler depuis son domicile sans perdre en productivité. Avec cette crise, tout le monde constate qu'il n'est pas nécessaire d'être assis dans un bureau avec ses collègues soumis à une surveillance pour être efficace dans son travail. Je suis donc persuadé que le télétravail va continuer de s'imposer pour une tranche importante du marché du travail.
Une acceptation nouvelle du travail à la maison que salue Sarah, elle qui avait la chance de pouvoir y recourir avant la crise.
Sans coronavirus, pouvoir passer en télétravail est un énorme avantage. J'ai ce qu'on appelle des horaires de travail flottants. Je peux décider la plupart du temps quand je dois travailler, tant que je fais toutes mes heures. Je peux donc travailler depuis la maison si nécessaire. Et pour concilier vie familiale et vie professionnelle, le télétravail est un formidable outil.
Face à ce changement sociétal, Hubertus Heil, ministre social-démocrate du travail, a promis une loi pour l'automne prochain. Objectif annoncé, encadrer ces nouvelles manières de travailler. Une initiative jugée cependant superflue par Werner Eichhorst. Selon lui, le modèle allemand très développé d'accord au sein même de l'entreprise doit perdurer.
Les accords dans l'entreprise entre employeurs et employés sont bien plus importants pour régler, par exemple, les questions portant sur les coûts du télétravail, comme l'équipement ou la connexion Internet. La question de la sécurité des données également, sans oublier le temps de travail et la disponibilité. Tout cela ne peut se régler par une nouvelle loi. Si légiférer sur le télétravail peut permettre de créer un cadre, les questions concrètes ne peuvent se régler que de manière locale.
Alors que les premiers détails de la nouvelle législation seront connus dans les prochains mois, le ministre du Travail a déjà entériné son principe. À l'avenir, chaque employé allemand aura le droit de passer en télétravail.
Ce sont surtout les cadres urbains qui télétravaillent aujourd'hui. Pour les ouvriers, le coronavirus rime bien souvent avec chômage, perte d'emploi ou avec des risques accrus pour la santé parce qu'il faut bien aller travailler. En Turquie, c'est le cas pour les travailleurs agricoles saisonniers contraints de parcourir des centaines de kilomètres pour gagner leur vie. En pleine saison des récoltes, ces travailleurs s'exposent au virus pour ne pas sombrer dans la misère. Anne Andlauer.
On ignore leur nombre précis. 1 million, au bas mot, sans doute beaucoup plus si l'on compte parmi eux les réfugiés syriens. Les travailleurs saisonniers de l'agriculture en Turquie accomplissent chaque année leur grande migration du printemps à l'automne, de récolte en récolte, d'une région à l'autre sur des centaines de kilomètres. En ce moment, ils cueillent du thé à Rize sur la mer Noire ou des fraises à Bursa dans l'ouest de l'Anatolie. La plupart sont originaires de l'Est et du Sud-Est, régions à majorité kurde, et doivent gagner en quelques mois de quoi nourrir toute leur famille pendant le reste de l'année. Le nouveau coronavirus les menace comme tout le monde, mais le confinement n'est pas une option. Pour survivre, ils doivent travailler, et pour travailler, ils doivent voyager. Début avril, le ministère de l'Intérieur a envoyé une circulaire à toutes les préfectures censée réglementer les activités et les déplacements de ces ouvriers agricoles en temps d'épidémie. Sous certaines conditions, ils sont exemptés des interdictions de voyage en vigueur dans le pays et leurs jeunes de 18 à 20 ans ne sont pas confinés chez eux, contrairement aux autres Turcs de moins de 20 ans qui ne travaillent pas. Dans les cars qui les transportent, les champs où ils travaillent, les dortoirs et les tentes où ils se reposent, les travailleurs agricoles saisonniers doivent respecter une distance d'au moins 1,50 m. Mais, sans surprise, des ONG sur le terrain font remonter de nombreuses lacunes. Les ouvriers ne sont pas informés, les règles ne sont pas appliquées, pas contrôlées. La crainte est que le virus ne se propage dans les champs au cours des 4 prochains mois les plus intenses et que ces travailleurs agricoles qui s'exposent au virus pour éviter la misère ne se retrouvent avec les deux, la pauvreté et la maladie.
Au Portugal, lorsqu'il est possible, le télétravail reste obligatoire jusqu'au 1er juin. Très peu pratiqué jusqu'ici, c'est une découverte pour bon nombre de Portugais et même l'administration s'est convertie. 25% des fonctionnaires devront désormais télétravailler. Les explications à Lisbonne de Marilyn Darcy.
Ils sont 68 000 fonctionnaires de l'administration en régime de télétravail pendant le confinement. Une découverte pour un secteur, celui des services centraux de l'État, peu enclin à pratiquer ce genre de travail à distance. L'expérience est concluante, estime le gouvernement, qui souhaite désormais la prolonger au-delà du confinement. Un quart de l'effectif actuellement en télétravail serait ainsi invité à passer définitivement sous ce régime. Les catégories concernées étant les techniciens qualifiés et supérieurs, comme les agents de la sécurité sociale, très sollicités pour les demandes d'aide dans le cadre du Covid-19. Les autres fonctionnaires, comme ceux de l'éducation, de la santé, de la sécurité et de la magistrature, ne seraient pas touchés par cette évolution en télétravail, car leurs fonctions sous-entendent l'interaction avec les usagers. Pour les pouvoirs publics, prolonger l'expérience va dans le sens de ce que prévoyait le gouvernement qui a inscrit le télétravail administratif dans son budget. La pandémie de coronavirus a précipité les choses. L'expérience, un rien forcé, a permis de rompre les réticences de chefs de service et d'une hiérarchie méfiant envers un modèle de production qui échappe à leur contrôle direct et quotidien. Le gouvernement, qui souhaite aussi poursuivre la modernisation de l'administration, veut dématérialiser nombre de ses services et favoriser les prises de rendez-vous préalables pour ses 10 services les plus sollicités, comme par exemple les impôts. Des tâches qui peuvent être faites à domicile depuis un terminal informatique. Le télétravail semble avoir gagné des galons. Il restera à préciser ses contours dans le code du travail qui ne l'a pas vraiment intégré jusqu'à présent.
La Roumanie accueille de nombreux call centers, des centres d'appel qui travaillent d'habitude dans deux gigantesques open space, ces bureaux sans cloison qui accueillent des dizaines d'employés. Et désormais, c'est certain, il y aura un avant et un après Covid-19 dans l'univers de la relation client. Benjamin Ribou.
D'ordinaire, les immenses bureaux de TELUS International à Bucarest bourdonnent d'activités. 10 000 mètres carrés où évoluent en permanence des opérateurs qui, casques aux oreilles, s'adressent à des clients du monde entier dans des dizaines de langues. Basé en Roumanie depuis une quinzaine d'années, Grégoire Vigrou est cofondateur et vice-président Europe de TELUS International pour l'Europe, société spécialisée dans la relation client. Avec l'arrivée du Covid-19, ses employés sont passés du bureau au télétravail, quasiment du jour au lendemain.
Le Covid-19 nous a amené à effectivement revoir la manière dont on travaille Et aujourd'hui, la majeure partie de nos opérateurs sont des gens qui travaillent de chez eux. Mais c'est surtout que le risque zéro n'existe pas. Donc oui, la nature de notre activité fait que les gens travaillent sur des open space. Et donc les gens sont peut-être davantage exposés que dans d'autres entreprises. Il y aura un avant et un après Covid. On aura été par la force des choses amenés à ce que les gens travaillent de chez eux. Partie de salariés continueront à travailler de chez eux sur un modèle plutôt hybride.
Pour le moment, chez TELUS International, on estime que l'expérience est positive, avec des employés qui passent notamment moins de temps dans les transports. Cela permettra aussi à la société de réaliser des économies de loyer. À l'avenir, l'entreprise possède en effet à Bucarest des bureaux de 10 000 mètres carrés de type classe A. C'est ce qui se fait de mieux, mais cela a aussi un coût. Côté client, ce passage au télétravail au sein des call centers, les centres de contact, a aussi un impact.
Et les clients sont plutôt ravis, à l'exception de ceux qui sont des clients dans le secteur bancaire et financier, pour lesquels les opérateurs traitent des informations confidentielles et ont accès au numéro de carte bancaire, par exemple. Ceux-là seront un petit peu plus réticents à l'idée de rester sur un modèle de télétravail, puisque du coup, il y a toujours un risque de fraude qui est très faible, mais qui existe néanmoins.
TELUS International possède des clients dans de très nombreux secteurs. Tous les domaines ne sont bien évidemment pas touchés de la même façon par la crise actuelle. Grégoire Vigroux.
Les secteurs d'activité qui enregistrent la plus forte baisse de leur chiffre d'affaires et du coût d'interaction client, puisque c'est notre secteur d'activité hein, de TELUS, c'est le domaine de la location de véhicules. Hein. On travaille pour des leaders européens dans le domaine de la location de voitures, et bien évidemment, c'est un secteur d'activité qui enregistre une forte baisse. Cela étant dit, on a mis personne au chômage technique, puisque, à contrario, sur d'autres projets, qui sont des projets d'autres secteurs d'activité, on a enregistré des pics de volume. Notamment sur tout ce qui est gaming, on enregistre une très très forte hausse, puisqu'effectivement les gens restent davantage chez eux, donc jouent davantage aux jeux vidéo, donc ça génère des contacts clients en forte augmentation. Donc, in fine, on a une activité qui ne pâtit pas trop de la crise, pour les raisons que je viens d'évoquer.
Le tournant du Covid-19 pourrait donc être plutôt bien négocié par les centres de contact, alors que les activités en ligne connaissent une explosion depuis le déclenchement de la crise.
En France aussi, le Covid-19 laisse son empreinte sur le monde du travail. Parfois, c'est une aubaine économique, comme pour Signa Solutions. C'est une PME basée dans la région Rhône-Alpes. Elle est spécialisée à l'origine dans le mobilier de loisirs et la signalétique. Et l'entreprise enchaîne désormais les commandes de plaques de protection en plastique, des produits devenus essentiels pour tous les commerçants à l'heure du déconfinement, Robin Dussène.
Dans cet entrepôt de Saint-André-du-Bagé, la fraiseuse tourne à plein régime. Chaque jour, depuis un mois, une dizaine de plaques de protection en plastique translucide sont débitées sur mesure. Le carnet de commandes déborde et le patron est ravi, même si cette pleine activité était loin d'être acquise au début du confinement.
Un peu avant le confinement même, j'ai un gros client qui est dans le vélo, qui m'a appelé pour d'abord reporter ou annuler une grosse commande de mobilier de magasin.
Charlie Wagmans, le gérant de Signa Solutions.
Et puis ensuite, j'ai eu un autre parc de loisirs sur lequel on avait un projet d'aire de jeu. On avait une stratégie de vouloir diversifier au maximum nos clients. Et là, on s'est retrouvé avec notre cœur de cible à l'arrêt.
Le jeune chef d'entreprise est alors contraint de placer ses 4 salariés au chômage partiel avant qu'une commande ne vienne tout débloquer.
On a eu une demande d'un client pour un plexi. Et on s'est dit, tiens, mais si, ça fonctionne. On a quand même ça dans le sang, hein. On fait de l'aménagement plus en extérieur qu'en intérieur, mais on fait un peu d'intérieur. Et on a communiqué, en fait, sur les réseaux qu'on utilise d'habitude, voilà, les classiques, Facebook, du LinkedIn, ce genre de choses. Et là, en fait, toute la notion d'inertie a disparu. C'est-à-dire, on s'est retrouvé avec des administrations qui nous ont dit, là, mais moi, je vous ouvre le compte fournisseur ce soir dans la nuit, envoyez-moi votre RIB, votre CABIS. Demain, c'est fait, on vous débloque les paiements. Moi, j'ai jamais eu autant de nouveaux clients que là.
Parmi ses nouveaux partenaires qui ont réagi dans l'urgence, Stéphane Marbeuf, il dirige le golfe de Joyenval en région parisienne.
On a un grand comptoir en bois derrière lesquels se trouvent en fait les hôtels d'accueil. Et donc c'est sur ce grand comptoir en bois qu'on a placé ces séparations en plexiglas de manière à ce que chacun soit de part et d'autre de la paroi.
Des cloisons que Stéphane Marbeuf juge esthétiques mais qui ne sont pas prévues pour durer.
À partir du moment, j'ai envie de dire, où on aura la certitude que globalement la pandémie est derrière nous, on ne conservera pas la matérialisation de ces séparations physiques. Si tout le monde peut de nouveau, entre guillemets, se comporter comme on le faisait avant, il n'y aura pas de raison de ne pas revenir à ce genre de comportement. Par contre, pour autant qu'il faille le garder, on peut les garder, il n'y a vraiment pas de souci.
En un mois de travail, les vitres de protection en plastique ont rapporté près de 30 000 euros à Signa Solutions. C'est quand même 10% du chiffre d'affaires annuel pour la PME. Et selon Charlie Wagmans, la perte d'activité du début du confinement a aujourd'hui totalement été compensée par cette nouvelle source de revenus.
Pendant que les entreprises cherchent à s'adapter et à survivre, les États européens ont tous déployé des mesures exceptionnelles de soutien à l'économie. Dispositifs de chômage partiel, aides d'urgence pour les entreprises les plus fragiles. Quels sont les États les plus généreux ? On voit ça avec Daniel Vigneron. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
Daniel, comment se situe la France par rapport à ses voisins en matière de soutien à l'économie ?
En ne prenant en compte que les mesures à caractère budgétaire, le gouvernement français a annoncé pour l'instant quelques 115 milliards d'euros d'aides diverses à l'activité, ce qui représente 4,7% du PIB hexagonal en 2019. Un effort important, mais qui est à peine supérieur à la moyenne des financements accordés dans les 15 pays occidentaux de l'UE. La France se montre un peu plus généreuse que ses voisins britanniques ou italiens, où les mesures avoisinent 4,5% du PIB, mais son effort est très supérieur à celui de l'Espagne, 3,3%. Un pays pourtant très sévèrement touché. En revanche, l'Allemagne, dont l'économie semble pourtant à ce stade un peu mieux résister, eh bien l'Allemagne consacre près de 6% de son produit national aux mesures de soutien. Mais en la matière, la championne d'Europe est l'Autriche, avec un effort supérieur à 9% du PIB.
Pour le chômage partiel, Paris affirme avoir mis en place le système le plus protecteur d'Europe.
Oui, c'est ce que prétend en effet la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Mais ce n'est pas exact. Ce qui est vrai, c'est que le chômage partiel concernait en France, début mai, plus de 12 millions de travailleurs, 60% des effectifs du secteur privé. En Allemagne, seuls 10,5 millions de personnes sont concernées, soit 28% de la main-d'œuvre privée. Et les chiffres sont inférieurs en Italie ou au Royaume-Uni, un peu plus de 7 millions. Or, curieusement, les financements prévus en Allemagne ou au Royaume-Uni sont bien plus élevés qu'en France, 40 et 48 milliards d'euros contre 26 chez nous.
Est-ce que vous voulez dire, Daniel, que la France indemnise moins bien ?
En tout cas, le gouvernement ne peut prétendre que les chômeurs partiels français sont mieux traités que les autres, car la hauteur des compensations n'est pas très différente. 70% de la rémunération brute en France, soit 84% du salaire net, 80% outre-Manche ou en Italie, et 60 ou 67% du salaire net outre-Rhin, mais qui passe à 70 et 77% après 4 mois d'indemnisation. En revanche, la France se distingue par le niveau de l'indemnité mensuelle maximale. Elle atteint près de 4900 euros dans l'Hexagone, mais seulement 2900 en Allemagne, 2800 en Grande-Bretagne et 1350 en Italie. Comme souvent, au nom de l'égalité, la France traite mieux ses cadres supérieurs. Quant au coût global du dispositif, il semble tout simplement que les Français le sous-estiment. Pour l'instant.
Pour le gouverneur de la Banque de France, Paris fait plus en faveur des petites entreprises que ses voisins.
Là encore, cela ne se vérifie guère dans les chiffres. Le fonds de solidarité français pour les TPE et les indépendants se montre à 7 milliards, auxquels s'ajoutent 2 milliards ciblés sur les start-up. En Allemagne, ces aides directes atteignent 50 milliards et au Royaume-Uni, 18 milliards. En revanche, l'Italie et l'Espagne ne soutiennent leurs PME que via des reports d'impôts ou des crédits garantis.
Et qu'est-ce qu'on peut en conclure alors ?
Eh bien qu'à ce stade, la France ne se distingue pas vraiment de ses voisins en matière de soutien à l'emploi et qu'elle est moins volontariste que les Allemands ou les Britanniques pour aider le small business. Mais ce qui ressort avant tout, c'est que tous les pays d'Europe occidentale ont grosso modo déployé ces deux derniers mois le même arsenal de mesures pour amortir le choc de la récession. Pour un marché censé être unifié, on peut déplorer l'absence d'une vraie coordination de ces mesures à l'échelle européenne.
Merci Daniel, à bientôt.
À bientôt Juliette.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les plateformes de diffusion. Demain, vous avez rendez-vous avec Léa Lisa Westerhoff. À bientôt.
Autour de la question.